Bonjour, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actualité internationale de la semaine qui nous emmènera en Irak avec cette question, la bataille pour la reprise de Mossoul s'accélère-t-elle? Nous irons non loin en Syrie avec Alep au cœur aussi d'une joue verbale entre Russes et Occidentaux. Israël, la mort d'un prix Nobel de la paix, Shimon Peres, et puis les États-Unis avec le premier débat télévisé entre Trump et Clinton. Quel impact sur les électeurs? Bienvenue dans 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, 7 jours dans le monde avec Philippe Moreau-Défarge, chercheur à l'IFRI, auteur notamment de la géopolitique pour les nuls. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice Lundy.
Pierre Servant nous accompagne également pendant cette heure. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabrice.
Pierre Servant, spécialiste des questions de défense, on le rappelle, auteur de Extension du domaine de la guerre, tout ce qui est dans toujours d'une actualité brûlante. En attendant, le roman, votre premier roman d'ici quelques semaines. Alors, avant de revenir sur la sanglante destinée de Alep, hein, et de la Syrie en général, bien entendu, il ne faut pas les distinguer, de l'autre côté de la frontière, même si Daesh, à un moment, a voulu supprimer cette frontière, la rayer, la gommer, question, la bataille pour reprendre la grande ville du nord de l'Irak, Mossoul, a-t-elle démarré? S'accélère-t-elle? Pierre Servant, il faut nous expliquer ce que vendredi matin, donc, 8 rafales parties du porte-avions Charles de Gaulle sont parties faire, venues faire, donc, en Irak.
Alors, ils ne sont pas partis pour engager la reprise de la ville de Mossoul, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu. Ils participent simplement, si je puis dire, au tour de bête, au tour de frappe de l'ensemble de la coalition qui frappe en Irak. Hein, vous avez une trentaine de pays qui sont impliqués, une quarantaine sur le plan diplomatique, mais un peu moins sur le plan de l'engagement des avions. Et vous avez une planification dans laquelle la France est rentrée, dans laquelle la France se trouve déjà depuis longtemps avec des avions qui se trouvent en Jordanie et dans les Émirats Arabes Unis. Et là, le porte-avions Charles de Gaulle arrivant, ces rafales marines prennent la suite.
Premier engagement depuis le porte-avions.
Premier engagement depuis le porte-avions, mais c'est le troisième engagement du porte-avions depuis l'année dernière.
Troisième mission,
donc c'est du classique, si je puis dire. Et donc il ne s'agit pas du tout du début de la reprise de Mossoul. Sauf qu'on peut considérer que depuis des mois, toutes les frappes qui sont sur Mossoul sont destinées à préparer la reconquête de cette ville de 1,5 million, 2 millions d'habitants, donc la seconde capitale de l'État islamique. Et ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que, a priori, avant la fin de l'année, on peut espérer que la ville de Mossoul sera reprise. Donc les opérations, se mettent en place dans le sens où il faut énormément de renseignements. Et vous avez un travail considérable fait par les forces occidentales, notamment pour arriver à numériser, géolocaliser, créer en trois dimensions la reconstruction de la ville, de là où se trouvent les groupes djihadistes qui évidemment sont insérés dans des endroits, ils sont installés à la poste, dans des endroits qui sont complètement banalisés, où il y a de la population et tout. Donc il faut énormément de renseignements, si bien que dans les rafales qui ont décollé, vous pouvez en avoir qui sont allés faire des missions de reconnaissance pour affiner tout cela. Et puis le moment venu, vous aurez une opération massive qui partira de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut qu'elle puisse partir aussi de l'intérieur à travers différents moyens. Et dernier point très important qui explique aussi pourquoi cela tarde, c'est que il ne suffit pas de frapper, il faut prévoir ce qu'on appelle le jour d'après, et que le jour d'après, vous n'ayez pas des massacres à l'intérieur de Mossoul. Donc ça nécessite un travail qui est en cours, à laquelle la France participe, de discussions, de négociations entre le gouvernement irakien de majorité chiite, les sunnites qui ont été très maltraités par les chiites depuis longtemps et qui se trouvent, enfin dont un certain nombre majoritaire se trouvent dans Mossoul, et les Kurdes qui sont chez eux et qui veulent que le jour d'après, c'est eux qui soient aux manettes de la ville de Mossoul. Donc il faut que vous ayez un alignement de planètes politiques et militaires avant véritablement que la reconquête soit engagée.
C'est vrai, Philippe Moreau-Défarge, quand on écoute Pierre Servant, qui va conquérir, qui va reprendre Mossoul? Et on a vu comment, encore cette semaine, Ankara, donc, se dire hostile à une reconquête de Raqqa, donc l'autre capitale, cette fois en Syrie, capitale plus politique, reconquête par les Kurdes, justement.
Bien sûr. Si vous voulez, la bataille de Mossoul, et si Mossoul est libérée par les forces irakiennes, va commencer probablement, moi je ne suis pas très optimiste, une deuxième bataille. C'est une bataille peut-être entre les Kurdes et le gouvernement irakien. Et c'est vrai que dans toute cette guerre, enfin cet enchevêtrement de guerre et de guerre civile, les Kurdes, si vous voulez, sentent une occasion historique. C'est-à-dire les Kurdes ont le sentiment qu'ils peuvent probablement transformer le quasi-état kurde qui est dans le nord de l'Irak en peut-être une réalité étatique. Et bien sûr, le grand ennemi, c'est d'abord la Turquie d'Erdogan, parce que la majorité des Kurdes se trouvent en Turquie. Donc on voit bien que la bataille n'est pas terminée, on voit bien que chaque guerre en appelle une autre. C'est ça la tragédie du Moyen-Orient.
Spécialement dans ce conflit en Syrie, en Irak, avec, on en reparlera à propos de la bataille d'Alep. Toutes ces guerres qui se superposent. Juste encore aux stratèges, aux spécialistes des questions de défense que vous êtes, Pierre Servant, les djihadistes, ils sont depuis 2 ans à Mossoul. C'était la première grosse prise de Daesh l'été 14, en juin 14. Ils ont mis 2 ans pour se préparer, les djihadistes. J'imagine que la reconquête, elle va pas se faire facilement dans une ville d'un million d'habitants. Enfin, c'est énorme.
Alors, comment dirais-je ? Vous avez certainement raison. Vous avez raison dans le sens où on sait qu'ils ont construit énormément de systèmes, de couloirs à travers les immeubles, de façon à ne pas avoir à
passer dans les rues.
Passer dans les rues. Donc ça, c'est un truc assez classique. Mmh. Le Hezbollah l'utilisait aussi. Donc énormément d'immeubles ont des voies d'accès, des tunnels qui sont creusés, de façon à pouvoir faire bouger des groupes de combat, prendre à revers une colonne de blindés qui pénétrerait. C'est le problème que les Américains avaient rencontré à Fallujah. La reprise de Fallujah a été terrible. Pour contrer...
En 2003, là, on
parle. En 2003, la deuxième bataille, les Américains avaient perdu la première. Et là, pour contrer cela, les Américains eux-mêmes avaient, à l'explosif, grâce au génie, tracé des nouvelles rues dans les immeubles. Et faisaient, je dirais, bondir leurs blindés avec de la musique rock, du hard rock à fond, pour assommer les adversaires. Donc, oui... A priori, ça paraît extrêmement difficile. Ce sont aussi des grands spécialistes du Minex, mine explosif, parce qu'ils ont tout l'arriéré d'expérience depuis 2003. Et là, on l'a retrouvé dans les différentes villes, Ramadi, Fallujah, Palmyre, Kobané, même à l'époque de Kobané. Malheureusement, ce sont des grands spécialistes. Et c'est pour ça que la France est très présente sur ce secteur où le génie français, dans tous les sens du terme, et notamment le génie militaire, est important. Donc oui, a priori, ça va être très difficile. En même temps, je suis très prudent, parce qu'il y a des choses mystérieuses. Certaines villes qui ont été reprises, on pensait qu'elles seraient défendues bec et ongle. Or, on s'est aperçu que les combattants djihadistes avaient fui assez rapidement. Alors, quelle est la stratégie ? Quel est le potentiel réel de Daesh ? Est-ce qu'il va chercher à protéger Raqqa, comme vous l'avez dit, qui est une ville moins importante numériquement, mais qui est religieusement essentielle parce qu'elle est au pays de Cham ? Ce pays désigné dans le Coran comme le pays où Allah donnera la victoire contre les croisés, non loin de la ville de Dabiq. Voilà. Donc c'est pour ça que Raqqa est religieusement importante. Alors est-ce que le gouvernement de Daesh va considérer à un certain moment qu'il faut faire un transfert de combattants et que finalement on aura des combats de retardement avec des mines, des snipers, mais quelque chose de pas très solide ? On ne le sait pas. Dernier point très important, le chef d'état-major de Daesh, qui était un Georgien, enfin surnommé le Georgien, mais qui était tchétchène, a été tué dans une frappe de drone il y a peu de temps. Donc il a quand même affaiblissement et désorganisation de Daesh. Donc a priori, oui, Fabrice Lundy, vous avez raison, ça paraît être un énorme morceau. C'est une ville qui est en bord de Tigre, avec des ponts qu'on peut faire sauter, donc les voies d'accès sont plus compliquées, et en même temps inconnues sur véritablement l'état d'effritement de Daesh.
Juste une question, parce que je suis un petit peu cynique, Philippe Moreau-Defarge, j'écoutais tout à l'heure Pierre Servant qui nous disait « Mossoul pourrait tomber peut-être avant la fin de l'année ». Est-ce que les Américains, justement, vont pas accélérer, quelque part, la reconquête de Mossoul ? Tiens, les Américains aux mains d'un pouvoir démocrate, peut-être pour faciliter la candidate démocrate ? Non, mais je suis un petit peu...
C'est pas impossible, mais je pense que les Américains seront relativement passifs dans cette affaire. Parce que, notamment, ils sont tiraillés entre le soutien au gouvernement irakien et les Kurdes, ce qui est très difficile. Alors, je voudrais terminer. Daesh peut avoir une autre option stratégique. La science stratégique au-delà, c'est la dispersion. On se disperse. Et on imagine, si vous voyez, on est dans un autre type de guerre, on peut imaginer tout à fait un état-major centralisé avec une extrême dispersion des troupes. Et ça peut être au-delà. Et je pense que beaucoup de spécialistes et de responsables occidentaux sont inquiets là-dessus.
Bon, on y reviendra évidemment dans 7 jours dans le monde. Alep, à présent, cette ville fantôme du nord de la Syrie, bombardée intensivement, non-stop, donc, depuis une semaine, par les forces du régime de Damas avec leurs alliés russes. La ville, elle n'est plus que ruine. les 250 000 habitants n'ont plus d'approvisionnement, manque d'eau, manque de vivres, manque de soins également. Ce qui a donné lieu à un procès en règle des Occidentaux contre les Russes au Conseil de sécurité à New York. L'ambassadeur de France, François Delattre.
À bien des égards, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Alep est à la Syrie ce que Sarajevo était à la Bosnie, ou encore Guernica à la guerre d'Espagne. Une ville symbole, une ville carrefour, une ville martyre. Alep, cette ville symbole plusieurs fois millénaire, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Cette ville carrefour où se sont entrechoqués et entremêlés tant de cultures, est aujourd'hui une ville martyre.
L'ambassadeur de France aux Nations Unies et les autres vont plus loin puisque les États-Unis parlent de barbarie. Le Royaume-Uni lui évoque une saisine de la CPI, la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Avant de revenir sur les opérations militaires, Philippe Moreau-Desfarges, quelques questions, quelques remarques. Vous, l'auteur de l'Histoire du monde pour les nuls, on parle de crimes de guerre justement. Quelle en est la définition? Qui pourrait poursuivre ces crimes de guerre? C'est la CPI?
Non, il y a plusieurs tribunaux, ouais. C'est compliqué, mais disons que ça peut être poursuivi devant la CPI. L'une des compétences de la CPI, ce sont les crimes de guerre. Alors, les crimes de guerre, ce sont des crimes, lorsque dans des opérations militaires, on massacre des civils, ce sont des crimes de guerre. Mais la CPI...
Dans toutes les guerres, on massacre des civils.
Oui, mais ce qui a changé, si vous voulez, il y a une forme, ça paraît étonnant, de moralisation de la guerre. C'est-à-dire que désormais, disons, depuis la Première Guerre mondiale et surtout la Seconde Guerre mondiale, il y a l'idée que la guerre doit être moralisé, c'est-à-dire que ceux qui commettent des actes atroces à l'occasion des guerres doivent pouvoir être punis. Il y a quand même un changement de mentalité. Alors c'est très long, et donc par conséquent on peut très imaginer que les crimes de guerre soient poursuivis devant la CPI. Je voudrais revenir sur la déclaration de l'ambassadeur de France.
Oui.
Je vais vous dire une chose, elle est très respectable cette déclaration. Néanmoins, c'est une déclaration d'impuissance. On a un discours extrêmement moral, extrêmement noble, mais je vous rappelle que Guernica, oui Guernica c'est un symbole, mais qui a gagné en Espagne? C'est Franco. Et les démocraties n'ont pas fait grand. En tout cas, les Guernica, c'est vrai qu'on voit le tableau de Picasso, on voit le bombardement.
37, le bombardement de cette ville basque par les nazis.
Mais ça n'a rien changé au sort de la guerre. Et malgré tout, la République est tombée. Donc, n'oublions pas que, à nouveau, ce discours, si vous voulez, je crois que parfois la morale est un moyen de masquer l'impuissance.
Alors, justement, Pierre Servant, la morale, on y est, là encore, je vais être encore une fois peut-être un petit peu cynique, mais une guerre, quelque part, ça doit se terminer. Un moment. Alep, c'est qu'un épisode, alors peut-être pas le moins sanglant dans cette guerre, dans ces guerres qui ensanglantent la Syrie depuis 2011, 5 ans, plus de 300 000 morts, des millions de personnes déplacées, la moitié de la population déplacée. Il faut finir cette guerre ou pas?
Oui, c'est vraiment... Je dois avouer, le fait que, d'une certaine façon, le fait de commenter cette situation, je me sens honteux. Honteux en tant qu'être humain appartenant à la communauté internationale de voir cette chose abominable. 300 000 morts, vous avez peut-être 60 000 à 80 000 combattants, notamment pas mal de soldats de l'armée syrienne qui ont été tués. Le reste, ce sont des civils, ce sont des femmes, des enfants, des vieillards ou des hommes qui avaient des fonctions, médecins ou autres, etc. C'est absolument abominable. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous n'avons pas affaire à une guerre, nous avons affaire à des guerres, avec une multiplicité de protagonistes ayant des alliances de revers, c'est-à-dire pouvant être notre allié à un moment, puis après notre ennemi, la Turquie va être notre allié, et puis notre ennemi en frappant les Kurdes du Nord, parce qu'ils ne veulent pas, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, la création d'un Kurdistan qui mordrait sur les trois pays, Irak, Syrie et Turquie. Donc c'est absolument abominable, parce qu'on ne voit pas de solution. Et sur la bataille d'Alep, elle est décisive. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les Russes, qui sont d'un cynisme total, mais qui sont extrêmement adroits, savent qu'ils ont une fenêtre de tir. Ils ont une fenêtre de tir, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pilotes dans l'avion américain, déjà depuis longtemps. Je veux dire, la séquence depuis le mois de septembre est à pleurer par rapport à nos alliés et amis américains, où on a un John Kerry négocie un accord avec son homologue russe, avec une partie secrète. Vous imaginez, les États-Unis, qui sont nos alliés avec d'autres pays en Irak et en Syrie, qui négocient en secret une alliance militaire avec notamment un poste de commandement pour lutter contre Daesh. Et au même moment où John Kerry, donc le ministre des Affaires étrangères, le déclare, vous avez le général américain qui commande en Syrie les moyens aériens, qui dit, mais on ne peut pas y croire une seconde. Parce que tout l'objectif des Russes, c'est d'obtenir de notre part les positionnements des rebelles que l'on soutient, sous prétexte de ne pas les frapper, de frapper Daesh, uniquement pour mieux pouvoir donner ses coordonnées aux Syriens et les frapper. On est dans un jeu de dupes. absolument tragique. Et juste une chose m'a beaucoup frappé. Donc la Russie participe, soutient ou est impliquée moralement dans des crimes de guerre, notamment dans la nature des armements qui sont utilisés, le ciblage, hôpitaux, etc.
On parle de bombes au phosphore.
Alors, bombes au phosphore.
C'est quoi? C'est des bombes donc qui provoquent un incendie.
Surtout, ce sont des bombes, si vous voulez, qui projettent des particules. Le phosphore brûle au contact de l'oxygène. Et si, malheureusement, une personne a une parcelle de phosphore sur les bras, elle ne peut rien faire. Le phosphore brûle. C'est ce qui est arrivé à Dresde, le bombardement de Dresde.
Mais juste un point. On a besoin toujours d'explications. On parle aussi de bombes
thermobariques.
Voilà, qui non seulement détruit l'immeuble, mais également s'enfonce à 5 mètres à peu près sous le sol. On a l'impression que, allez, ils essaient tous leurs armements possibles, imaginables, les Russes.
Oui. Alors, ce n'est pas un armement nouveau, parce que les Américains l'avaient utilisé déjà dans la première guerre du Golfe. Ce sont effectivement des bombes anti-bunkers, puisque les bunkers sont enterrés. Donc, c'est des bombes qui ont plusieurs têtes, qui traversent les étages et qui vont après exploser en sous-sol. Mais le point que je voulais dire, c'est que j'ai écouté la dernière déclaration du ministre Lavrov des Affaires étrangères russe. Il dit pas du tout, la Russie n'a pas frappé, n'a pas commis de crime de guerre. Il dit, il n'y a aucune preuve du fait que la Russie ait commis des crimes de guerre, etc. Très intéressant. Ouais. Il n'y a aucune preuve.
Et Moscou n'a pas du tout l'intention de cesser ses actions militaires. En face, on a Washington qui menace de cesser toute coopération diplomatique, voire d'armer peut-être avec des missiles solaires les rebelles au sol. Philippe Moreau-Desfarges, nouvelle illustration aussi d'une guerre froide, un renouveau de guerre froide ensemble.
Pas du tout. Attendez, je sais que ce qu'on a décrit, c'est épouvantable, c'est une horreur absolue. Mais Barack Obama dit quelque chose de très important. Il a dit que cette guerre est une guerre civile. Ça veut dire les États-Unis s'en lavent les mains. Pourquoi? En fait, il y a des crimes commis par le régime, mais il y a des crimes commis par les opposants. Donc, les États-Unis ne feront rien. Quant à la Russie, je veux dire une chose, c'est un faux fort. La Russie, oui, frappe, cogne, détruit, elle bombarde tout ce qu'on a décrit, toutes les horreurs, elle commet des crimes de guerre. Mais elle est incapable d'imposer une solution politique. Le problème, je veux dire une chose, c'est affreux ce que je veux dire. La guerre va continuer. La guerre va continuer parce qu'il n'y a pas de fort capable d'imposer sa volonté. Si Bachar el-Assad était capable de gagner la guerre, on le laissera faire, mais il en est incapable. De même, les opposants sont incapables. Donc, l'horreur va continuer.
L'horreur va continuer. Les incertitudes aussi, les hésitations. C'est Barack Obama, encore cette semaine, qui reconnaissait qu'il n'avait encore entendu d'idées pour mettre un terme à cette guerre, des idées qui n'impliqueraient pas l'envoi de troupes américaines au sol. On est quoi? Dans la prudence, dans l'hésitation, dans l'ignorance, dans l'incapacité? C'est quoi, Pierre Servent?
Non, là, pour le coup, il a raison. C'est-à-dire que si vous mettez des forces occidentales au sol, Vous rajoutez une couche supplémentaire de fanatisme et de guerre de religion contre le chrétien, le croisé, etc. Donc honnêtement, ça peut pas marcher. Et donc, il faut véritablement que ce soit les forces locales elles-mêmes qui repartent au combat, les Kurdes dans le Nord. C'est ce que les Américains font et soutiennent. Alors, je suis très critique sur les Américains. Néanmoins, depuis l'été 14, par les forces spéciales, par des frappes de drones, ils ont détruit pratiquement les trois quarts de la gouvernance de Daesh. Le ministre tunisien du pétrole, le webmaster britannique, le chef de guerre géorgien, etc.
Le ministre des attentats récemment qui est français.
Exactement. Donc vraiment, l'appareil, la structure a été détruite. Et avec la coalition, dont la France, tous les stocks de billets récupérés dans la banque de Mossoul, 600 millions de devises. Donc il y a vraiment un affaiblissement. Mais notre grande erreur historique, des Américains notamment, c'est le tournant de 2013, été 2013, utilisation du chimique, et le fait de n'avoir frappé ni les installations chimiques, ni surtout il était prévu de frapper Al-Nosra. Daesh n'existait pas encore sur le terrain, mais serait cassé...
L'émanation d'Al-Qaïda à l'époque.
D'Al-Qaïda serait cassé cette dynamique et serait permis à l'opposition dite modérée, entre guillemets, de reprendre de la main. Aujourd'hui, vraiment, on est dans une situation chaotique totale.
La lutte contre le terrorisme, quand même, avec une information importante cette semaine, cette décision inédite, alors tardive peut-être, diront certains, du Congrès américain autorisant les familles des victimes du 11 septembre, donc il y a 15 ans, à poursuivre, qui donc, l'Arabie Saoudite. Vote du Congrès contre le veto du président Barack Obama. 15 des 19 pirates de l'air étaient saoudiens. Plusieurs questions. Alors déjà, oui ou non, le royaume saoudien a-t-il apporté un soutien au terrorisme en septembre ? Question, réponse courte, Philippe Moreau-Desfarges.
C'est-à-dire que c'est une procédure très longue. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Il n'est pas impossible que ça se retrouve devant un tribunal pénal international ou même devant la Cour pénale internationale, encore que ce sera très compliqué. Mais il faudra donner des preuves à ce point-là. Vous savez, c'est une procédure qui peut durer plusieurs années, mais qui en dit long et qui pose énormément de problèmes aux États-Unis, parce que l'Arabie saoudite, c'est quand même un des grands alliés des États-Unis.
Un grand allié, même si les Saoudiens considèrent que maintenant les États-Unis font plutôt des clins d'œil aux Iraniens. Oui, simplement, c'est conforme au droit international, ce type d'action, ou pas ?
Oui, enfin, vous savez, le droit international, c'est un droit mou. Donc, ce type d'action, oui, s'inscrit, je dirais, dans les transformations du droit international. Par exemple, vous avez vu beaucoup d'actions faites par des individus contre le général Pinochet. Donc, cette logique, si vous voulez, de permettant à des victimes de poursuivre un État, oui, c'est dans la vague de fond du système international.
Riyad pourrait avoir des comptes à rendre devant la justice, Pierre Servent ?
Non, ça ne débouchera jamais. Ça ne débouchera jamais parce que c'est très très compliqué à montrer le lien. Et par ailleurs, on a une difficulté en France notamment à comprendre quand on parle de l'Arabie Saoudite ou de Riyad, c'est pas du tout un État centralisé à la française avec un gouvernement qui prend des décisions. Ce sont des familles avec une famille régnante qui à travers des conciliabules fait sortir un roi, mais c'est un système totalement éclaté d'abord d'ailleurs historiquement hein, depuis l'existence de Mahomet 6e 7e siècle. Et par ailleurs, ce sont des familles qui ont beaucoup d'autonomie dans les financements caritatifs ou non, caritatifs parfois dévoyés vers des groupes terroristes. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'Arabie Saoudite porte une énorme responsabilité depuis les années 60, quand elle voulait lutter contre les révolutions nationalistes arabes laïques, dans la wahhabisation du monde musulman. Et cette wahhabisation, c'est-à-dire cette salafisation de la religion, donc de façon très intégriste, très sectaire, a inondé le monde jusqu'à Molenbeek, jusqu'aux banlieues françaises, depuis les années 60. Contre, encore une fois, les révolutions nationales laïques. Et puis en 79, avec l'arrivée de Khomeini en Iran, avec la République islamique, donc République, vous avez une monarchie, c'était une nouvelle menace sur notamment le jackpot des lieux saints, Médine et la Mecque, car ce sont des jackpots. C'est pour ça que vous avez 2300 pèlerins tués l'année dernière, dont 400 chiites, parce que c'est devenu un Barnum Circus. Et donc Riyad, pour que les autres ne touchent pas au Grisby, donc se sont lancés dans cette politique de wahhabisation, en passant, c'est très important, par le social. Rappelez-vous, si je puis dire, les techniques du Parti communiste, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, le social et l'aide. Sur le terrain, ils rencontraient les cathos des patros, les catholiques du patronage, qui faisaient les mêmes démarches sociales. Et derrière l'aide sociale du Parti communiste, il y avait la carte et l'UMA. Et bien là, derrière l'aide sociale de toutes les structures mises en place par l'Arabie Saoudite et les pétro-monarchies, il y a la carte du wahhabisme. Et bien, nous récupérons aujourd'hui tous les morceaux. Et l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, nous sommes obligés de manger à la même table que.
Bon, allez, 7 jours dans le monde à suivre. Shimon Peres méritait-il le prix Nobel de la paix ? On va retrouver Philippe Moreau-Desfarges dans un instant et Pierre Servent.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, pour revenir sur toute l'actu internationale de la semaine, on est toujours avec Pierre Servent, auteur de Extension du domaine de la guerre, un livre qui était sorti donc au mois de janvier et qui reste d'une actualité évidemment criante, hein, chapitre par chapitre, puisqu'on parlait beaucoup des Russes il y a un instant, l'action de Vladimir Poutine. Philippe Moreau-Desfarges également, qui revient sur aussi bien l'histoire du monde pour les nuls que la géopolitique pour les nuls. Il est chercheur à l'IFRI. C'est le jour dans le monde avec des obsèques planétaires, donc ce vendredi matin à Jérusalem, après la disparition de l'ancien président israélien Shimon Peres. Avec Barack Obama, avec Bill Clinton, avec Mahmoud Abbas aussi, qui a d'ailleurs serré la main du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il y avait le roi d'Espagne, il y avait François Hollande, des dizaines de chefs d'État. Shimon Peres, il avait 93 ans, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, président de la République. 70 ans de carrière politique, un prix Nobel de la paix en 94. Vous savez, un an après cette poignée de main historique, donc à la Maison-Blanche, en présence de Bill Clinton, avec Rabin, avec Arafat et lui-même, suite aux accords d'Oslo. Qu'est-ce qui justifie qu'il y avait comme ça autant de personnalités, autant de chefs d'État et de gouvernement à ses obsèques ? Philippe Moreau-Desfarges.
Fabrice Lundy, c'est le jeu de la communauté internationale. Cet homme, bien sûr, tout le monde le présente comme un homme de la paix. Avant tout, c'est un grand nationaliste israélien, un grand patriote israélien, puisque dans les années 50, il était en France et il préparait l'arme nucléaire. Donc, c'est un grand israélien, incontestablement. Alors, pourquoi cette unanimité? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, Shimon Peres apparaît comme un homme de la paix face à l'équipe au pouvoir à Jérusalem, face à Benjamin Netanyahu. Et c'est vrai que, vous savez, comme tous ces vieux sionistes, c'est le dernier des vieux sionistes.
Bien sûr. Hein, si vous voulez, c'était l'un des pères fondateurs.
Exactement. Hein,
c'est ça. À l'instar d'un Begin, à l'instar d'un Sharon, par exemple.
Oui. Bon. Et ces hommes-là, ils ont bâti Israël avec du nettoyage ethnique. C'est-à-dire qu'ils ont viré les Palestiniens sans scrupule en 47-48. Et puis le temps passant, je pense que Shimon Peres s'est rendu compte qu'il fallait vivre avec les Arabes et les Palestiniens. Cela dit, par exemple, Shimon Peres, homme de la paix, a soutenu la construction du mur. Alors, je vais dire, mais sur le prix Nobel. Le prix Nobel, 1994. Mais je vous rappelle que le prix Nobel, d'abord, il est partagé entre Shimon Peres et Yasser Arafat. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer un autre prix Nobel. Je crois de 1973 ou 1974. C'est le prix Nobel Henry Kissinger Leducto, qui récompensait la paix au Vietnam. On sait comment ça s'est terminé par la conquête du Sud-Vietnam par le Nord-Vietnam. Bon, là, bon, ben voilà.
On va y revenir, justement. En tout cas, Barack Obama parlait d'un Mandela lorsqu'il évoquait, donc, ce vendredi matin dans lors de cette cérémonie officielle à Jérusalem, lorsqu'il évoquait Shimon Peres, qu'on va réentendre, qu'on va revoir.
Au début, personne en Israël ne croyait que l'on pourrait faire la paix avec l'Égypte. On l'a fait. Ils ne croyaient pas que l'on pourrait faire la paix avec la Jordanie. On l'a fait. Ils pensaient que l'on ne pourrait pas commencer le processus de paix avec les Palestiniens. On l'a commencé. Ils m'ont donné la permission d'être optimiste. Eh bien, je ne vais jamais laisser tomber cette permission.
Voilà, donc Peres, donc disparu cette semaine à l'âge de 93 ans. Personnalité consensuelle en Israël, et il le rappelait, Philippe Moreau Desfarges, hein, l'un des pères de la nation.
Très tard.
À l'instar d'un Rabin, d'un Sharon. Et en effet, c'était l'homme à la fois des accords d'Oslo, bien sûr, cette poignée de main historique à la Maison-Blanche, mais aussi Pierre Servant, l'homme de la colonisation, l'homme de la bombe atomique israélienne aussi.
Oui, effectivement.
C'est une erreur très complexe.
D'ailleurs, c'est une... Mais voilà, même si De Gaulle voulait voler vers l'Orient compliqué avec des idées simples, honnêtement, c'est très compliqué d'avoir des idées simples sur le sujet. Les personnages sont le reflet aussi du caractère tellurique et imbriqué de la région. Toujours est-il qu'il a fait vraiment un chemin très important vers la paix, vers la capacité à écouter, entendre l'autre. Et ce qui est poignant dans les obsèques, hein, en voyant son cercueil, c'est de se dire, mais est-ce que dans ce cercueil est enterré avec lui la paix? Quand on voit le processus terrible dans lequel le gouvernement de Netanyahou est rentré...
La paix reste un chantier inachevé. Voilà ce que disait encore Obama lors des obsèques. Hein.
Oui, alors c'est presque gentil dire ça, inachevé. C'est-à-dire qu'il est totalement chaotique, il est totalement mité par les colonisations. Et c'est la menace majeure par rapport à Israël. C'est-à-dire que la sécurité, la paix d'Israël est conditionnée par... l'accession des Palestiniens à un État viable. Et donc là, il y a, comment dirais-je, projeté dans l'avenir une ombre sur Israël à cause, je dirais, de ce qui n'a pas été suivi par rapport au message de Peres, qui est tout à fait tragique. Et on parlait de prix Nobel de la paix, comme quoi c'est pas simple. Enfin, c'est pas
Il le méritait à vos yeux ou pas, Pierre Servant?
Certainement. Oui. Au moment où il a eu, oui, je pense. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi derrière. Mais Barack Obama, élu, donc il y a presque 8 ans, notamment pour ça, l'a eu aussi. Et le bilan est pour moi atterrant. C'est-à-dire que vous avez un prix Nobel de la paix qui a multiplié les frappes de drones armés de Predator. Moi, je suis pas très choqué par ça. J'aimerais que la France en ait aussi. Mais on est dans des paradoxes terribles. Entre parenthèses, donner un prix Nobel de la paix en démarrage de mandat à un président, c'est une erreur absolument majeure.
Philippe Moreau-Desfarges, juste, c'est vrai, ce processus de paix, donc initié entre autres par Peres, qui a justifié ce prix Nobel il y a 22 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Cisjordanie, elle ressemble à une peau de léopard, quelque part, avec 600 000 colons, y compris à Jérusalem-Est. Et pour surveiller, pour protéger plutôt les colons des soldats israéliens en territoire donc palestinien, il n'y a toujours pas deux États. Et puis Jérusalem, dans son intégralité, est aux couleurs de qui? D'Israël.
D'Israël. Enfin. Oui. Non, ce qui est terrible, et puis maintenant, ils sont dans un engrenage, si vous voulez.
C'est colons. Quoi la suite?
La suite.
Comment donner raison à Peres?
pour le moment, il n'y a pas de raison de donner raison à Pérez. Pour le moment, si
vous voulez, il avait raison à l'époque.
Si,
on vient de le réentendre.
Peut-être le seul espoir de paix, je vais vous le dire, mais il est impossible. C'est un État binational. C'est pas un État juif et un État palestinien, mais un État binational. C'est-à-dire, recréer une Palestine, c'est évidemment possible.
Non.
Les Juifs ne le veulent pas, et je ne suis pas sûr que c'est palestinien. Non plus, mais si vous voulez, la politique de colonisation a été épouvantable parce que ces colons, maintenant, s'installent pratiquement par la force. L'armée israélienne souvent essaye de démanteler les sites colonisés et ne le peut pas et doit protéger. Et le jour où, par exemple, ces populations vont vieillir, comment va se faire la coexistence entre des Palestiniens qui font encore beaucoup d'enfants et des colons qui font pas mal d'enfants, mais ils sont battus par les Arabes.
Pierre Servant.
Oui, effectivement. Et puis avec aussi quand même, justement en termes démographiques, vous le disiez, mais chez les Juifs israéliens, les milieux les plus radicaux, intégristes, etc., qui font effectivement eux aussi beaucoup d'enfants et qui sont pas nécessairement sionistes en plus. C'est assez compliqué. Et je me disais, en voyant tous ces chefs d'État qui sont là, et c'est, je pense, un hommage très légitime, mais quelque part, est-ce qu'ils viennent pas se racheter une bonne conduite, tous, vous voyez, en compatissant.
Notamment l'Américain.
Voilà. C'est ce que j'ai dit en d'autres termes.
Tout ça, sans vouloir plomber ceux qui nous regardent et nous écoutent, pour dire qu'on est vraiment rentré dans une époque où les tensions, les antagonismes, le fait que des Pérez disparaissent, mais que les imprécateurs se multiplient partout, fait qu'il faut tous se retrousser les manches pour, je dirais justement, essayer d'être des voies de dialogue, de rencontre et d'altérité face à la montée de ces antagonismes.
Oui, et extension du domaine de la guerre, justement, ce que votre livre avec... le regain de tous ces messianiques, hein, les Poutine, Erdogan,
Netanyahou.
Et puis Netanyahou, que vous mettez également.
Vous parliez du nucléaire tout à l'heure. La grande obsession de Netanyahou, c'est de protéger son pays par le nucléaire, enfin d'éviter que Israël soit détruite par l'arme nucléaire, ce qui paraît assez douteux compte tenu de l'imbrication
de tous les pays.
Et le seul pays dans la zone qui est l'arme nucléaire, c'est Israël. Alors, on comprend par rapport à la Shoah, cette menace complète d'un peuple d'avoir pu disparaître, donc on le comprend. Mais Netanyahou, dans cette logique absolue, il détruit les chances de survie de son pays. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire de personnages qui sont investis certainement très sincèrement, et qui mettent en place des politiques qui vont détruire progressivement leur pays.
Alors, Barack Obama, qui prenait la parole donc lors des obsèques de Shimon Peres à Jérusalem, il connaîtra d'ailleurs, comme nous tous, le nom de son successeur dans un petit peu plus d'un mois. On sera le mardi 8 novembre, le scrutin américain. En attendant, bien les deux candidats continuent d'occuper le terrain, campagne électorale, et puis débat à la télévision. Premier débat, c'était donc lundi soir, première confrontation entre Hillary Clinton et Donald Trump.
Secrétaire Clinton, tout va bien ? Bien, je veux que vous soyez heureuse. C'est très important pour moi.
Donald, je sais que vous vivez dans votre monde, mais la réalité est différente.
Alors, Philippe Moreau-Desfarges, on ne va pas se livrer au petit jeu de qui a gagné, qui a perdu, qui était le meilleur, qui était le moins bon, peu importe. Ce type de débat télévisé, quand même, elle est ultra léchée, ultra préparée. Ça se voyait d'ailleurs spécialement avec Hillary Clinton. On a l'impression qu'elle récitait des tirades apprises par cœur, bien entendu. À quoi ça sert ? Quel impact sur l'électeur ? Même si c'est un super carrefour dans une campagne électorale américaine.
Il faut quand même un débat ou des débats entre les deux candidats, premièrement. Deuxièmement,
c'est important sur l'issue du vote ou pas ?
On n'en sait rien. Ouais. On n'en sait rien. Mais ça doit avoir lieu de toute façon. Et puis, deuxièmement, n'oubliez pas, l'enjeu est quand même très lourd. C'est-à-dire que, on voit bien que au-delà de Trump et de Clinton, et je ne sais pas quel sera le résultat, au-delà de ces deux individus, les États-Unis, il y a un véritable problème des États-Unis. C'est-à-dire que Trump incarne un courant extrêmement profond aux États-Unis, qui est, je vais dire d'un mot un peu brutal, l'isolationnisme, le repli sur soi. C'est-à-dire, c'est le mur, le fameux mur avec le Mexique. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement fort, ce qui fait que certains commentateurs disent, même si Trump perd, ses idées ont gagné. Et ça, c'est très préoccupant, si vous voulez, sur le débat. Donc, il est important que les deux candidats débattent. Mais la difficulté, c'est que vous avez d'un côté la démagogie de Trump et sa brutalité. De l'autre côté, Hillary Clinton n'est pas très convaincante, notamment quand on voit l'ombre de Bill, la famille Clinton. C'est vrai que c'est l'Américain moyen, il y a un rejet de ces grandes familles qui s'approprient l'État. Donc c'est une partie très difficile et il faut que ces débats aient lieu parce que le résultat n'est pas donné.
Pierre Servant, on voit Donald Trump qui ne cesse de rebondir donc depuis 6 mois, depuis les différents caucus. Sur quoi elle va porter la campagne dans les 4-5 dernières semaines, je n'ai pas calculé exactement, qu'est-ce qu'ils vont se dire, sur quel terrain ils vont s'affronter, qu'est-ce qu'ils vont devoir se dire l'un par rapport à l'autre?
Alors écoutez, je suis pas dans l'équipe de l'un ou de l'autre, mais en tout cas pour essayer de vous répondre, moi ce qui me frappe c'est que c'est l'affrontement de l'as de la dissimulation, Clinton, contre l'as de la transgression. Trump.
Et c'est très bien dit.
Ce qui est très gênant avec le personnage de Clinton, c'est effectivement, vous le dites, c'est le côté on récite, on met en scène, on camoufle une absence de sincérité. Du côté de Trump, c'est le délire le plus général, le plus global, mais c'est une tentative de faire croire à la sincérité. Donc il est possible qu'au dernier moment, dans l'urne, au-delà des combats d'idées qui ne sont pas toujours extrêmement prégnants aux États-Unis, le choix final se fasse un peu sur l'impulsion du moment. Et ce qui me préoccupe terriblement, c'est que dans le champ psychologique de notre monde aujourd'hui, il y a un mot-clé qui est la peur. Peur pour des tas économiques, terrorisme, machin, etc. Donc est-ce que, in fine, quelle que soit l'option politique de départ de la personne, de l'électeur américain, est-ce que quelque part, ils vont se dire Trump, il va nous protéger, effectivement, isoler, il va nous protéger, etc. Et donc, c'est évidemment ma très grande crainte. Je préférais que Clinton soit élu, mais même Clinton élu, je suis vraiment pas rassuré. J'ai été très frappé de son comportement, d'Hillary Clinton, face aux envoyés spéciaux, par exemple français. Je pense, il y avait notamment l'envoyé du petit journal de Canal+, oui, qui essayait de l'approcher en dehors de tout ce qui est... et on sentait que c'était presque une...
C'était l'envoyé spécial, oui, c'était le quotidien sur TMC, c'est sa nouvelle version. Oui, je l'ai vu aussi.
Voilà. Ouais. Et on sentait qu'elle est... C'est comme si elle était incapable de répondre aux débeautés, à des questions... Enfin, il n'y a pas... Comment dirais-je? Elles sont toutes à peu près connues. Donc, vraiment, il y a une espèce de gêne. J'ai une gêne terrible par rapport à ce personnage Clinton. Mais enfin, il n'y a pas photo entre les deux.
Un mot, Philippe. Pierre Servant a utilisé le mot peur. Il y a un président des États-Unis qui a su combattre la peur. Mais c'était un sacré bonhomme. C'était Roosevelt. Je vous rappelle, Roosevelt a fait des discours superbes à l'époque du New Deal, en disant « Je suis là pour combattre la peur du chômage, etc. » Mais Hillary Clinton... Dernière chose que je voudrais remarquer, les deux candidats ne sont pas jeunes. Non. Hillary Clinton a 68 ans.
Ils ont quasiment le même âge.
Et oui,
72.
Attendez, pour un pays qui... Je vous rappelle, Kennedy avait à peine 40 ans.
Face à Nixon.
Et ça, c'est un vrai problème aussi.
7 jours dans le monde à suivre. Le Gabon. Est-ce qu'Ali Bongo pourrait se retrouver un jour devant la Cour pénale internationale? Rendez-vous dans un instant avec Philippe Moreau-Desfarges et Pierre Servant.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Pendant encore quelques minutes sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI, et Pierre Servant, journaliste spécialiste des questions de défense. Et un mois après la réélection contestée de Ali Bongo, la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposant Jean Ping, valide le résultat au Gabon. Un petit peu plus de 50% pour le président sortant, 10 000 voix d'avance. Aussitôt dit, aussitôt fait, Ali Bongo prête serment.
Conformément à la tradition africaine en général, bantou en particulier, j'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble afin de trouver des solutions qui satisfassent nos compatriotes.
Oui, alors fin de non-recevoir de l'opposition, laquelle n'a pas digéré, vous savez, les 99% de participation dans la province du Haut-Ogooué. On est dans l'extrême est du Gabon. C'est la province du clan Bongo. Une mascarade, une blague, un vol. Voilà ce que disait Jean Ping, donc l'opposant numéro 1, le candidat, le challenger d'Ali Bongo, au moment de la décision de la Cour constitutionnelle. Philippe Moreau-Desfarges, malgré ce feu vert de la Cour constitutionnelle, il reste encore des doutes, oui, comme le soulignait Jean-Marc Ayrault, le ministre, cette semaine.
Oui, enfin, il reste encore des doutes. Donc, oui, de toute façon, l'affaire n'est pas réglée. Puis, si vous voulez, il y a une bagarre presque familiale. Jean Ping et Ali Bongo sont très proches, hein, familialement. Non, si vous voulez, c'est un,
épousé,
c'est un triste vaudeville. D'ailleurs, dans votre intervention, vous avez évoqué un éventuel recours devant la Cour pénale internationale. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui...
Alors, attendez, oui, en effet, c'est vrai que ce que je disais il y a quelques minutes, il y a eu des violences post-électorales, le 31 août, donc, il y avait eu des affrontements. On dit que des dizaines de Gabonais auraient disparu. Là, pour l'instant, évidemment, aucun bilan officiel. Et c'est vrai que la procureure de la CPI va ouvrir un examen préliminaire sur cette crise post-électorale. Ça pourrait déboucher sur quoi ?
Attendez, Fabrice Lundy, votre remarque est très pertinente. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale est submergée de recours contre des dirigeants africains. Le président soudanais, le Kenyan, enfin, tous.
Le président soudanais, qui est Omar Béchir.
Qui est toujours au pouvoir.
Par contre, Gbagbo,
oui,
lui s'y trouve, oui. L'ancien président ivoirien.
Il y a quand même, si vous voulez, la Cour pénale internationale, soit la Cour pénale internationale s'occupe du Gabon, et là, elle va finir par avoir de véritables difficultés politiques, parce que les Africains vont dire à un moment, ça suffit avec l'Afrique. L'Afrique est véritablement submergée, enfin, plutôt la Cour pénale internationale est submergée par des
affaires africaines.
Ah ouais. Donc, raison gardée, mais il n'est pas impossible que ça vienne devant la CPI. Pourquoi pas ?
Pierre Servent.
Oui, alors malheureusement, je pense que le flux ne va pas s'arrêter. Guerre au Sud-Soudan, le Burundi, processus pré-génocidaire dénoncé par beaucoup de monde.
Depuis un an, ça dure.
République démocratique du Congo, le Gabon.
À venir avec une élection, Joseph Kabila qui voudrait bien être réélu pour la énième fois.
Voilà, donc on s'aperçoit que de nombreuses constitutions sont changées au dernier moment pour permettre la pérennité du pouvoir. Vous avez beaucoup d'autres élections sur les 54 États africains. Beaucoup de processus électoraux qui vont s'enchaîner, et on bute sur un problème structurel en Afrique. C'est vraiment la conception que nous on va appeler népotique du pouvoir, mais qui pour un Africain est une conception normale de l'exercice du pouvoir. Le chef est celui qui prend, qui partage, qui protège et qui redistribue. Et le bon chef, c'est celui qui garde que 50% pour lui et qui redistribue le reste. Quand on parle de corruption, etc., je suis allé en Afrique, j'y étais comme officier, etc., ils ne comprennent absolument pas notre mode de fonctionnement. Et la difficulté, c'est que la structure ethnique de l'Afrique fait que quand vous avez une ethnie dominante à un endroit, le processus démocratique est diabolique. Parce qu'il plonge les ethnies minoritaires, sauf si elles arrivent à s'allier, ce que parfois elles arrivent à faire.
Il y avait été quasiment le cas avec Jean-Ping, qui avait réussi à fédérer.
Mais voilà, mais absolument. Ce qui a joué aussi contre Blaise Compaoré. Donc il y a aussi des mouvements où la population n'accepte pas qu'il y ait une tentative de captation. Mais dans l'ensemble, on retrouve ces problématiques-là, et on retrouve, je dirais, l'Afrique telle qu'elle est, avec ses immenses talents, son immense énergie, et ces démons-là qui sont extrêmement graves, parce que quand il faut passer, comment dirais-je, à la violence, quand le recours à la violence, le passage de l'esprit de paix à la violence est parfois extrêmement rapide en Afrique.
En tout cas, si le Gabon doute, peut tanguer, on verra ça, évidemment. La Colombie, elle, semble s'apaiser. Signature, lundi, à Carthagène, d'un accord de paix historique entre Timochenko, bon, c'est le surnom du chef des FARC, et le président colombien Dos Santos. La fin d'un demi-siècle de guerre, 64-2016, 260 000 morts, 45 000 disparus, 7 millions de déplacés. Pierre Servent, les FARC, je le disais, créés en 64, il y avait encore 7 000 combattants armés.
Oui, effectivement. Donc, mouvement à la fois révolutionnaire, trafiquant, ayant l'habitude de mener des coups de poing. C'est comme ça qu'ils avaient capturé un grand nombre de parlementaires en allant chercher dans la capitale colombienne, donc des parlementaires qui avaient été ravis.
Ingrid Betancourt, candidate à la députation, avait été enlevée dans ce
absolument.
Contexte.
Absolument. Et donc, le président Uribe a monté une opération force spéciale à l'époque pour récupérer notamment Ingrid Betancourt. Mais rappelez-vous qu'à cette époque-là, les médias occidentaux et notamment français considéraient que les gentils, c'était pratiquement les FARC, et le méchant, c'était Uribe, qui ne donnait pas aux FARC ce qu'il voulait pour libérer la blanche Ingrid Betancourt. Donc là, on est sorti heureusement de cette chose-là. Tout ça nous rappelle qu'il faut vraiment, par rapport à ces questions, être sérieux et travailler et ne pas juger sur les apparences. Obama, oh qu'il est beau, qu'il est intelligent, les FARC, ah ils sont en botte dans la jungle, les pauvres chéris, etc.
Ouais, Jean Trump et la gentille Madame Clinton.
Et en tout cas, on ne peut que se féliciter de ce processus. La grande question est, c'est comment on fait maintenant pour recycler dans un monde de paix, de relations normales, des jeunes qui ont été élevés dans la violence, dans la jungle, avec une Kalachnikov. Et c'est tout l'enjeu à chaque fois de faire sortir de la guerre les jeunes générations.
Avec une deuxième guérilla qu'il va falloir aussi convaincre de rendre les armes, c'est l'armée de libération nationale. Philippe Moreau-Desfarges.
Et une grande question, c'est est-ce que l'Amérique latine est en train de sortir de ses illusions révolutionnaires ? Si vous voulez, l'Amérique latine, le castrisme, le Chavez, a marqué l'Amérique latine. Aujourd'hui, l'Amérique latine semble plus raisonnable, le cas du Brésil pouvant semer un peu le doute.
Voilà. Oui, mais le Brésil. Brésil avec la fin de Lula.
Exactement, et qui montre que le système, les systèmes latino-américains ont beaucoup de mal à prendre une certaine maturité, une certaine stabilité.
Donc l'Afrique, pour comparer l'Afrique, il y a encore beaucoup à faire. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine, ça va mieux.
Je dirais l'Amérique latine a un peu avancé, mais elle peut reculer encore. Mais si vous voulez, l'accord des FARC est quand même quelque chose de très positif et il faut souhaiter le succès de cet accord.
Oui, Pierre Servan.
Oui, non, effectivement, il faut le souligner. Il y a pas beaucoup de bonnes annonces. Il y en a quand même eu, il faut se rappeler, sur le nucléaire iranien, ça a été une affaire majeure. Le rapprochement avec Cuba, majeur. Le Vatican jouant un rôle important pour Cuba. Le sultanat d'Oman jouant un rôle très important pour abriter les premières négociations secrètes entre Américains et chiites. Tout ça pour montrer que dans ce monde fracturé, il y a aussi des États et des organisations qui rapprochent.
Alors, un mot, il y a quand même un méchant, le Congrès américain.
Allez, l'histoire du monde pour les nuls, la géopolitique pour les nuls, signée de Philippe Moreau-Desfarges, que je remercie. Il est chercheur à l'IFRI. Avec nous également Pierre Servan, auteur de Extension du domaine de la guerre. 7 jours dans le monde, c'est fini. Merci à tous.
BFM Business, 7 jours dans le monde.